Chapitre 18. Question. Parle-moi davantage des civilisations et des êtres hautement évolués. À part le fait qu'ils ne s'entretuent jamais, qu'est-ce qui les différencie de nous ? Réponse. Ils partagent. Question. Nous partageons nous aussi ? Réponse. Non, ils partagent tout, avec tout le monde. Personne ne se prive de quoi que ce soit. Toutes les ressources naturelles de leur monde, de leur environnement, sont divisées à égalité et distribuées à chacun. On ne juge pas qu'une nation, un groupe ou une culture possède une ressource naturelle uniquement parce qu'elle se trouve à occuper le même emplacement physique. Il est entendu que là où les planètes, qu'un groupe de l'espèce qu'on appelle son chez-soi, appartiennent à tout le monde, à toute l'espèce de ce système. En effet, la planète, ou le groupe de planètes même, est considéré comme un système. Elle est perçue comme un système complet et non comme un ensemble de petites parties ou d'éléments qu'on peut éliminer, décimer ou éradiquer sans nuire au système lui-même. Question. L'écosystème, comme nous l'appelons. Réponse. Eh bien, c'est plus que cela. Ce n'est pas seulement l'écologie, cette relation entre les ressources naturelles de la planète et ses habitants. C'est aussi la relation des habitants avec eux-mêmes, les uns avec les autres et avec l'environnement. C'est l'interrelation de toutes les espèces de la vie. Question. L'espèce système ? Réponse. Oui, j'aime ce mot, c'est un bon mot. Parce que ce dont nous parlons est plus grand que l'écosystème. C'est vraiment l'espèce système. Ou ce que votre Richard Buckminster Fuller appelait la noosphère. Question. J'aime bien espèce système. Ce mot est plus facile à comprendre. Je me suis toujours demandé ce que ça pouvait bien signifier la noosphère. Réponse. Bucky aime ton mot aussi. Il n'est pas attaché au sien. Il a toujours aimé tout ce qui rendait les choses plus simples ou plus faciles. Question. Tu parles à cet homme, maintenant. Tu as changé ce dialogue en séance de spiritisme. Réponse. Disons seulement que j'ai une raison de savoir que l'essence identifiée sous le nom de Richard Buckminster Fuller est ravie de ce nouveau terme. Question. C'est magnifique. C'est tellement super de simplement savoir cela. Réponse. C'est super. Je suis d'accord. Question. Ainsi, dans des cultures hautement évoluées, c'est l'espèce système qui importe. Réponse. Oui, mais ce n'est pas que les êtres individuels ne comptent pas. Bien au contraire. Le fait qu'ils comptent se reflète dans le fait même que l'effet sur l'espèce système soit au premier plan lorsqu'on envisage n'importe quelle décision. Il est entendu que l'espèce système soutient toute la vie et chaque être à un niveau optimal. Par conséquent, ne rien faire de nuisible à l'espèce système constitue une affirmation selon laquelle chaque être est important. Non seulement les êtres pourvus d'influence, d'argent, ou encore ceux ayant du pouvoir, une stature imposante, ou, présumément, une conscience plus élevée, mais tous les êtres et toutes les espèces du système. Question. Comment cela peut-il fonctionner ? Comment cela peut-il être possible ? Sur notre planète, les désirs et les besoins d'une espèce quelconque doivent être subordonnés aux désirs et aux besoins des autres. Autrement, nous ne pourrions faire l'expérience de la vie telle que nous la connaissons. Réponse. Vous vous rapprochez dangereusement du moment où vous ne pourrez pas faire l'expérience de la vie telle que vous la connaissez, précisément parce que vous aurez insisté pour subordonner les besoins de la plupart des espèces aux désirs d'une seule. Question. L'espèce humaine ? Réponse. Oui. Et pas même tous les membres de cette espèce, mais seulement quelques-uns. Pas même le plus grand nombre, ce qui pourrait démontrer une certaine logique, mais de loin le plus petit. Question. Le plus riche et le plus puissant ? Réponse. Tout à fait. Question. Ça y est. Une autre tirade contre les riches et les parvenus. Réponse. Loin de là. Votre civilisation ne mérite pas de tirade, pas plus qu'une pièce remplie de petits enfants. Les êtres humains feront ce qu'ils font maintenant, à eux-mêmes et les uns aux autres, jusqu'à ce qu'ils réalisent que tel n'est plus leur intérêt. Aucune quantité de tirades ne changera cela. Si les tirades modifiaient les choses, vos religions auraient été beaucoup plus efficaces depuis longtemps. Question. Pouf, tu ne rates personne aujourd'hui, n'est-ce pas ? Réponse. Je ne fais rien de la sorte. Ces simples observations te piquent-elles ? Alors trouve-en la raison. Nous savons cela tous les deux. La vérité nous rend souvent mal à l'aise. Mais ce livre tente d'apporter la vérité, tout comme d'autres que j'ai inspirés, et des films, et des émissions de télévision. Question. Je ne suis pas certain de vouloir encourager les gens à regarder la télévision. Réponse. Pour le meilleur ou pour le pire, la télévision est maintenant le bivouac de votre société. Ce n'est pas le médium qui vous mène dans des directions où vous dites ne pas vouloir aller. Ce sont les messages que vous permettez qu'on y place. ne dénonce pas le médium. Tu peux l'utiliser toi-même pour envoyer un message différent. Question. Permets-moi de revenir en arrière, si je le peux. Puis-je revenir à ma question originale ? Je veux encore savoir comment un espèce-système peut fonctionner lorsqu'on traite de façon égale les besoins de toutes les espèces du système. Réponse. Les besoins sont tous traités également, mais eux-mêmes ne sont pas tous égaux. C'est une question de proportion et d'équilibre. Les EHE comprennent profondément que tous les êtres vivants, dans ce que nous avons choisi d'appeler l'espèce-système, ont des besoins à combler pour assurer la survie des formes physiques qui créent et soutiennent le système. Ils comprennent aussi que ces besoins ne sont ni identiques ni égaux par rapport aux demandes qu'ils imposent au système même. Prenons l'exemple de votre propre espèce-système. Question. D'accord. Réponse. Utilisons les deux espèces vivantes que vous appelez les arbres et les humains. Question. Je te suis. Réponse. De toute évidence, les arbres n'ont pas besoin d'autant d'entretien quotidien que les humains. Alors leurs besoins à tous deux ne sont pas égaux, mais ils sont interreliés. En d'autres termes, une espèce dépend de l'autre. Vous devez accorder autant d'attention aux besoins des arbres qu'à ceux des humains, mais ces besoins eux-mêmes ne sont pas grands. Et si vous ignorez les besoins d'une espèce vivante, vous le faites à vos risques. Le livre que j'ai mentionné plus tôt comme étant d'une importance cruciale, The Last Hours of Ancient Sunlight, décrit tout cela d'une façon magnifique. Il souligne que les arbres tirent du dioxyde de carbone de votre atmosphère en utilisant le carbone de ce gaz atmosphérique pour fabriquer des hydrates de carbone, c'est-à-dire pour croître. Presque tout ce dont une plante est constituée, y compris les racines, les tiges et les feuilles, même les noix et les fruits que porte l'arbre, sont des hydrates de carbone. Entre-temps, la portion oxygène de ce gaz est libérée par l'arbre. C'est l'excrément de l'arbre. Les êtres humains, par contre, ont besoin d'oxygène afin de survivre. Sans arbre pour convertir le dioxyde de carbone, qui est abondant dans votre atmosphère, en oxygène, qui ne l'est pas, vous, en tant qu'espèce, ne pourriez survivre. En retour, vous dégagez, expirez du dioxyde de carbone, dont l'arbre a besoin pour survivre. Vois-tu l'équilibre ? Question, bien sûr, c'est ingénieux. Réponse, merci. À présent, s'il vous plaît, arrêtez de le détruire. Question, oh allons, pour chaque arbre que nous abattons, nous en plantons deux autres. Réponse, oui, il ne faudra que 300 ans à ces arbres pour atteindre la force et la taille qui leur permettront de produire autant d'oxygène qu'un grand nombre des arbres anciens que vous coupez. L'usine d'oxygène que vous appelez la forêt tropicale amazonienne pourra être remplacée, avec sa capacité d'équilibrer l'atmosphère de votre planète, dans, disons, 2 ou 3 000 ans. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous dégagez des milliers d'acres chaque année, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Question, pourquoi ? Pourquoi faisons-nous cela ? Réponse. Vous dégagez le territoire afin de pouvoir élever du bétail pour ensuite l'abattre et le manger. On rapporte que l'élevage du bétail fournit plus de revenus au peuple indigène de la forêt tropicale. Alors, on proclame que tout cela rendra le territoire productif. Mais dans les sociétés hautement évoluées, l'érosion de l'espèce-système n'est pas considérée comme productive, mais bien plutôt comme destructrice. Alors, les EHE ont trouvé une façon d'équilibrer les besoins totaux de l'espèce-système. Ils choisissent de le faire plutôt que de servir les désirs d'une petite portion du système, car ils réalisent qu'aucune espèce à l'intérieur du système ne peut survivre si le système même est détruit. Question. Dis donc, ça semble évident, ça semble douloureusement évident. Réponse. Au cours des années à venir, cette évidence pourrait être encore plus pénible sur la Terre si votre soi-disant espèce dominante ne se réveille pas. Question. Je pige tout à fait, et je veux remédier à tout cela, mais je me sens parfois si désespéré. Que puis-je faire pour susciter un changement ? Réponse, tu n'as rien à faire, mais tu as beaucoup à être. Question, explique-moi. Réponse, depuis longtemps, et sans grand succès, les êtres humains essaient de résoudre les problèmes au niveau du faire. C'est qu'ils n'ont pas compris que le changement véritable est toujours accompli au niveau de l'être, et non du faire. Oh, vous avez fait quelques découvertes, d'accord, et vous avez fait progresser vos technologies, et ainsi, d'une certaine façon, cela a facilité votre vie. Mais il n'est pas évident que vous l'ayez amélioré. Et par rapport aux grandes questions de principe, votre progrès a été très lent. Depuis des siècles, vous affrontez sur votre planète un grand nombre des mêmes problèmes de principe. Votre idée selon laquelle la Terre existe pour l'exploitation des espèces dominantes en est un bon exemple. Il est clair que vous ne changerez pas ce que vous faites à ce sujet, à moins de transformer votre façon d'être. Vous devez modifier votre conception de qui vous êtes en relation avec votre environnement et de tout ce qui y habite avant d'agir différemment. C'est une question de conscience. Et avant de pouvoir transformer la conscience, vous devez l'élever. Question : comment pouvons-nous y arriver ? Réponse : cessez d'être silencieux devant tout cela. Élevez la voix. Faites du grabuge. Soulevez les problèmes. Vous pourriez même éveiller une certaine conscience collective. Sur une seule question, par exemple. Pourquoi ne pas cultiver du chanvre pour en faire du papier ? Avez-vous seulement une idée du nombre d'arbres nécessaires pour approvisionner votre monde au quotidien ? Sans compter les verres de carton, les cartons servant à emporter la nourriture et les serviettes de table en papier. Le chanvre se cultive à bon marché, se récolte aisément et s'utilise non seulement pour fabriquer du papier, mais pour confectionner les cordages les plus solides, les vêtements les plus durables et même certains des remèdes les plus efficaces que votre planète puisse fournir. En fait, on peut planter du cannabis à si bon marché, le récolter si facilement et l'utiliser à tant d'usages merveilleux qu'un immense lobby s'y oppose. Trop de gens y perdraient trop pour permettre au monde de se tourner vers cette simple plante que l'on peut cultiver presque partout. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont l'avidité remplace le bon sens dans la conduite des affaires humaines. Alors offre ce livre à tous ceux que tu connais, non seulement pour qu'ils comprennent cela, mais pour qu'ils saisissent tout le reste de son message. Et il y a encore beaucoup plus de choses, attends de voir. Question. Ouais, mais je commence à me sentir déprimé, comme beaucoup de gens après leur lecture du tome 2. Va-t-on parler de plus en plus de notre destruction des choses et de nos ratages ? Car je ne suis pas vraiment certain d'être prêt à en entendre davantage. Réponse : es-tu prêt à recevoir de l'inspiration, à te faire stimuler ? Car le fait d'apprendre à connaître et d'explorer ce que font d'autres civilisations, des civilisations avancées, devrait à la fois t'inspirer et te stimuler. Songe aux possibilités, aux ouvertures, au lendemain doré juste sur le point d'arriver. Question. À condition que nous nous réveillions. Réponse. Vous allez vous réveiller. Vous êtes en train de vous réveiller. Le paradigme est en train de se transformer. Le monde est en train de changer. Cela se passe directement devant toi. Ce livre fait partie du processus. Tu en fais partie. Rappelle-toi. Tu es dans la pièce pour guérir la pièce. Tu es dans l'espace afin de guérir l'espace. C'est ta seule raison d'être ici. N'abandonne pas, jamais. L'aventure la plus grandiose vient tout juste de commencer. Question. Très bien. Je choisis d'être inspiré et non découragé par l'exemple et la sagesse d'être hautement évolué. Réponse. Bien. C'est là un choix intelligent, étant donné l'objectif que vous dites vouloir atteindre en tant qu'espèce. En observant ces êtres, vous retiendrez en mémoire bien des enseignements. Les EHE vivent en unité, en ayant un sentiment profond d'interrelation. Leurs comportements sont créés par leurs pensées racines, ce que vous pourriez appeler les principes directeurs de base de leur société. Vos comportements aussi sont créés par vos pensées racines, ou les principes directeurs fondamentaux de votre société. Question : quels sont les principes directeurs fondamentaux d'une société de HE ? Réponse : leur premier principe directeur est : nous formons tous une même entité. Chaque décision, chaque choix, tout ce que vous appelleriez moral et éthique est fondé sur ce principe. Le second principe directeur est « tout dans le 1 est en interrelation ». Selon ce principe, aucun membre d'une espèce ne pourrait ou ne voudrait garder quelque chose d'une autre espèce tout simplement parce qu'il l'a eu en premier, ou que c'est son bien, ou parce qu'il s'agit d'une denrée rare. La dépendance mutuelle de tous les êtres vivants de l'espèce système est reconnue et honorée. Les besoins relatifs de chaque espèce d'organisme vivant au sein du système sont toujours gardés en équilibre, parce qu'ils sont toujours gardés à l'esprit. Question. Ce second principe directeur signifie-t-il qu'il n'existe aucune propriété personnelle ? Réponse. Pas comme vous l'entendez. Un EHE fait l'expérience de la propriété personnelle au sens de détenir une responsabilité personnelle pour chaque bonne chose confiée à ses soins. Le mot le plus proche dans votre langage pour décrire ce que ressent un être hautement évolué à l'égard de ce que vous appelleriez un bien précieux, c'est l'intendance. Un EHE est un intendant et non un propriétaire. Le mot posséder et le concept que vous lui accolez ne font pas partie de la culture des EHE. aucune possession n'existe au sens de bien personnel. Les EHE ne possèdent pas, les EHE caressent. En d'autres termes, ils tiennent, embrassent, aiment et prennent soin des choses, mais ne les possèdent pas. Les humains possèdent, les EHE caressent. Dans votre langage, c'est ainsi que l'on pourrait décrire la différence. Auparavant, dans votre histoire, les humains avaient l'impression d'avoir le droit de posséder personnellement tout ce sur quoi ils posaient les mains. Cela comprenait femmes et enfants, le territoire et ses richesses. Les choses, et toutes les autres choses que leurs choses pouvaient leur permettre d'obtenir, étaient également à eux. Dans la société humaine, cette croyance est encore largement entretenue aujourd'hui, telle une vérité. Les humains sont devenus obsédés par ce concept de propriété. Les EHE, qui vous ont observé de loin, ont appelé cela l'obsession de la possession. À présent, maintenant que vous avez évolué, vous comprenez de plus en plus que vous ne pouvez rien posséder réellement, véritablement, surtout pas vos conjoints et vos enfants. Nombre d'entre vous, cependant, s'accrochent à l'idée qu'ils puissent posséder le territoire et tout ce qu'il y a dessus, dessous et au-dessus. Oui, vous parlez même des droits aériens. Les EHE de l'univers, par contre, saisissent profondément que la planète qu'ils ont sous les pieds est quelque chose qu'aucun d'entre eux ne peut posséder. Bien qu'un individu d'une culture hautement évoluée puisse recevoir, par l'intermédiaire des mécanismes de sa société, une parcelle de terre dont il devra s'occuper. S'il est un bon intendant du sol, il peut recevoir la permission, ou on peut lui demander, de transmettre l'intendance à ses enfants, qui la transmettront à leur tour aux leurs. Mais si, à un moment donné, lui ou ses enfants se révèlent de médiocres intendants du sol, le sol cesse de leur être confié. Question. Oh, si c'était le principe directeur sur Terre, la moitié des industries du monde devraient céder leurs propriétés. Réponse. Et l'écosystème du monde s'améliorerait radicalement, du jour au lendemain. Tu vois, dans une culture hautement évoluée, on ne permettrait jamais à une compagnie, comme vous dites, de piller le sol pour obtenir un profit, car il serait certain que la qualité de vie des propriétaires et des employés de cette compagnie subirait un tort irrévocable. Où serait alors le profit ? Question. Eh bien, on n'en ressentirait peut-être pas le tort pendant bien des années, tandis que l'on réaliserait des bénéfices immédiats, sur place. On qualifierait cela de profit à court terme et de perte à long terme. Mais qui se soucie de la perte à long terme, s'il n'est pas là pour en faire l'expérience ? Réponse. Des êtres hautement évolués le font. Par ailleurs, ils vivent beaucoup plus longtemps. Question. Combien de fois plus longtemps ? Réponse. Bien des fois. Dans certaines sociétés de EHE, des êtres vivent à jamais, ou aussi longtemps qu'ils choisissent de rester sous forme corporelle. Par conséquent, dans ces sociétés de EHE, les individus sont habituellement là pour faire l'expérience des conséquences à long terme de leurs gestes. Question. Comment arrivent-ils à rester en vie aussi longtemps ? Réponse. Bien sûr, ils ne sont jamais sans vie, pas plus que vous. Mais je sais ce que tu veux savoir. Tu veux dire avec le corps ? Question. Oui, comment arrivent-ils à rester aussi longtemps avec le corps ? Comment est-ce possible ? Réponse. Tout d'abord parce qu'ils ne polluent pas leur air, leur eau et leur sol. Ils ne mettent aucun produit chimique dans le sol, par exemple, qui serait ensuite absorbé par les plantes et les animaux, ou et se retrouverait dans leur corps après consommation de ces plantes et de ces animaux. En fait, un EHE ne consommerait jamais un animal et bourrait encore moins le sol, ainsi que les plantes que mange l'animal, de produits chimiques, pour ensuite bourrer l'animal même de produits chimiques et ainsi le consommer. Un EHE estimerait avec raison que cette pratique est suicidaire. Alors les EHE ne polluent pas leur environnement, leur atmosphère et leur propre corps physique comme le font les humains. Vos corps sont des créations magnifiques, faites pour durer infiniment plus longtemps que vous ne leur permettez. Les EHE adoptent aussi divers comportements psychologiques qui prolongent également leur vie. Question. Comme. Réponse. Un EHE ne s'inquiète jamais et ne comprendrait même pas les concepts humains d'inquiétude ou de stress. Un EHE ne haïrait jamais, ne sentirait jamais de rage, de jalousie ou de panique. Par conséquent, un EHE ne produit pas dans son corps de réaction biochimique qui le dévorerait et le détruirait. Un EHE appellerait cela se manger soi-même, et ne se consommerait pas plus qu'il ne consommerait un autre être corporel.